À vous, les Burgiens. Votre magazine d'infos 100% local. Interview, reportage, suivez-nous, on est les seuls à vous y emmener. Bonjour à toutes et à tous. Face à la détresse de femmes et d'hommes, ils se sont mobilisés. Dans la vallée de la Roya, la frontière franco-italienne, Cédric Héroux, agriculteur, a accueilli des centaines de migrants chez lui. À Bourg-en-Bresse, le collectif Solidarité Migrants a créé une association pour gérer le bidonville rue des Prés de Brou, une association co-présidée par un Burgien et un Albanais. À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM. Cédric Héroux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agriculteur dans la vallée de la Roya. Vous avez aidé des centaines de migrants à traverser la frontière franco-italienne. Pour ça, vous avez été plusieurs fois en garde à vue et devant la justice. En ce moment, vous faites le tour de la France pour présenter Libre, un documentaire pour raconter votre combat. Cédric Héroux, c'est quoi pour vous être libre ?
C'est tenter d'y rester aussi. De rester libre un maximum, c'est libre de dire ce qu'on pense, libre d'agir comme on le pense, et bien sûr avec le respect d'autrui, hein, bien sûr. Et souvent on m'a menacé en fait de m'enfermer, donc de me priver de liberté. Et pour moi, la liberté ne s'arrête pas à des barreaux de prison, ne s'arrête pas. Voilà, c'est juste la liberté d'avoir un avis et c'est agir dans la démocratie, quoi, être libre, je pense.
La liberté, pour vous, c'est aussi là où vous vivez. Vous l'avez dit, vous avez acheté un terrain pour vous créer une cabane. Vous êtes producteur d'olives, vous avez des poules. Comment un jour on se dit, je vais aider des migrants ?
Ah, moi, je ne le dis pas. En fait, c'est la France, à Paris, on décide de fermer les frontières et de les instaurer depuis 2015 pour faire de la lutte antiterroriste. Et en fait, clairement, ils font de la lutte contre la migration. Donc on se retrouvait avec des gamins, des gamines, des familles, des femmes seules, bloquées sur cette frontière. On s'est retrouvé avec des morts à côté de Monaco, de Cannes, de cette Côte d'Azur. Et vous savez, un montagnard, c'est un peu comme un marin, quoi, en mer. C'est qu'il y a un moment où on a une obligation de sauvetage, une obligation de tendre la main. Ça dépasse la question de pro-migrants ou anti-migrants. Cédric Héroux, à la base, ce n'est pas un militant quoi, du tout.
Oui, parce que vous êtes agriculteur et vous avez constaté ce qui se passait sur place. Et c'est là que ça a déclenché quelque chose chez vous. Parce que quand vous vous êtes installé dans la vallée de la Roya, vous n'avez pas pensé que vous alliez ensuite vous occuper de ces personnes.
Non, mais moi, je n'ai pas aidé des migrants. J'ai juste aidé des gens qui avaient en bas de chez moi. Il faut comprendre que la Roya, c'est une vallée alpine. C'est une route qui est très sinueuse, avec un relief très abrupt. Et donc de voir des gamins marcher seuls sur cette route, voir à 2h du matin, etc., on est obligé de considérer en fait le danger de ces personnes-là, quoi. C'est pour ça que c'est compliqué en fait de se défendre devant des représentants de la justice. La justice parle de personnes en situation irrégulière et nous on parle de gens. Et c'est très compliqué, quoi. Et la justice ou le gouvernement parle de quotas, de flux, de pourcentages, comme si c'était des cartons, et nous on a des gens. Et la grosse problématique, c'est ça, c'est qu'on ne parle pas du tout de la même chose.
Vous ne pensez pas aux migrants, vous pensez aux personnes. C'est ce que vous racontiez un peu par rapport à votre enfance, que vous ne faisiez pas la différence dans le quartier où vous avez grandi, entre les Noirs d'un côté et les Blancs d'un côté. Ça a toujours été quelque chose qui était en vous, au final.
Je suis dans un quartier qui s'appelle l'Ariane, à Nice. Donc c'est un quartier très populaire. Donc c'est vrai que j'étais à l'école avec des Noirs, des Arabes. Et surtout aussi, sur cette notion en fait, de protection de l'enfant, c'est que ma mère a été assistante maternelle. Donc on a eu beaucoup d'enfants qui sont passés à la maison. Donc j'ai appris à partager ma chambre, mes jouets, mes parents aussi. Et cette obligation en fait, d'assistance en tant qu'adulte envers les enfants. Et donc voilà, c'est mon éducation en fait, c'est ma mère qui m'a éduqué comme ça, c'est ma culture, c'est mon histoire, et de ne pas le faire, ce serait une censure. Tout à l'heure, vous me parliez, qu'est-ce que c'est que la liberté ? C'est d'assumer ça, c'est d'assumer son éducation, sa culture et son histoire en fait. Et donc l'histoire, mon histoire, ma culture, mon éducation, c'est de porter assistance à des personnes qui sont potentiellement en danger.
Dans la vallée de la Roya, vous n'êtes pas le seul à aider ces hommes, ces femmes, ces familles qui viennent d'Italie. Vous êtes plusieurs personnes dans la vallée de la Roya à aider ces personnes.
En 2016, on était très nombreux. Ça s'est bien calmé avec cette pression policière, avec les gardes à vue, avec les perquisitions, tout ça.
Avant que vous décidiez de médiatiser en fait, vos actions.
Ouais. Oui, et pendant, au début, pendant, ouais, il y avait quand même pas mal de monde qui aidait. Parce qu'il faut comprendre, en fait, c'est avant tout, c'est que la frontière était fermée, et, mais ça n'a pas été la ligne frontière qui était fermée, ça a été une bande sur 20 km. Donc ça veut dire qu'entre Bray-sur-Roya et Nice, du côté français, on s'est retrouvé avec des barrages de police qui nous empêchaient d'aller jusqu'à Nice. Donc en fait, il était facile de faire 26 milles en Italie jusqu'à Bray-sur-Roya. Il n'y avait aucun barrage de police, mais les barrages de police étaient entre Bray-sur-Roya et Nice. Et en fait, la frontière était mise à l'intérieur du territoire. Donc les personnes qui sont en France, les personnes en migration qui sont en France, n'ont pas accédé à leur droit de la demande d'asile, et pour les mineurs isolés, la prise en charge éducative par l'ASE, l'aide sociale en France. Et en fait, l'État considérait la Vella Roya comme en étant en Italie, et même le département des Alpes-Maritimes servait de zone frontière où toutes les personnes arrêtées étaient dégagées en Italie, que ce soit majeures ou mineures. Et ce qu'on a fait maintenant, c'est ça, c'est une association pour que ces personnes puissent se régulariser le plus tôt possible et pour qu'elles puissent accéder à leurs droits. Donc on a dû prouver ça, faire condamner le préfet à maintes reprises. Et donc voilà, c'est une grosse guerre médiatique, de communication, d'information et juridique, quoi.
Comment vous avez vécu ce tourbillon justement de cette médiatisation et de vous retrouver devant la justice ?
Bon, devant la justice, ça va, c'est un peu luxe, hein, c'est en garde à vue que c'est plus compliqué. Donc bon, on s'habitue à tout, j'en crois. Hein. Et puis qu'on a des gamins qui ont vécu la guerre, la dictature, la torture en Libye, bon, ça reste un peu... bon, pas grand-chose. Mais après, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que j'ai vu comment marchait la justice de l'intérieur, j'ai vu comment marchait la police de l'intérieur, j'ai vu comment un préfet pouvait entraver la loi et avoir des directives illégales. Ce qui est très intéressant, c'est ça. Hein. Ce qui me fait très peur, en fait, c'est le manque d'indépendance de la justice.
Mais vous croyez plus en la justice ?
Non, je crois en la justice, je la défends, la justice. Je crois plus aux représentants de la justice, c'est pas pareil. La justice vaut bien mieux que leurs représentants, malheureusement.
Mais de ce que vous avez vécu, vous voyez que vous n'avez pas rendu justice.
Non, après c'est pas moi, moi je cherche pas justice. Moi c'est pour les personnes en migration que je cherche justice. Hein, je veux dire. Et c'est sûr que qu'on voit ces représentants de la justice, donc les juges, les procureurs, etc., complètement inertes à la détresse de gens. C'est inquiétant, quoi. Il y a un déni de réalité d'une part, et il y a une froideur. C'est des sociopathes ces gens, quoi. C'est des gens qui sont absolument pas qui n'ont aucune empathie, quoi. Et c'est pas une question de pro ou anti-migrants, c'est qu'à un moment il y a des personnes sur notre territoire et on n'a pas le droit de les laisser, de les mettre en danger d'une part et de les laisser comme ça sans accès au droit et respecter le droit, surtout que l'État respecte le droit. Ce qui est troublant, c'est ça, c'est qu'en fait il y a des directives étatiques donc, que le préfet coordonne et qui sont illégales en fait. C'est qu'on se sert de la police pour faire des actions illégales. C'est quand même grave en France qu'un préfet puisse faire ça. Un préfet qui se fait condamner par mon avocat tous les mois. Pour entraver la demande d'asile, pour avoir refoutu des gamins en Italie illégalement. Et c'est une personne qui est toujours en place, qui a toujours son métier, qui est payée pour ça, qui se sert de la police pour faire ça. En ce moment, autour de mon domicile, il y a 50 gendarmes mobiles qui me surveillent. On a trouvé des caméras autour de mon domicile pour filmer les gens, donc illégalement. Donc il y a plein de procédures qui sont illégales, qui sont faites par l'État. Nous, la question de la migration dans la Vella Roya, on ne défend pas que des migrants. En fait, on se bat pour lutter pour nos droits à nous Français.
Et puis, ça vous droit à vous aussi, vu que vous êtes témoin que qu'il y a ces caméras qui sont à proximité de votre domicile.
Bien sûr, et puis on est dans une vallée qui était complètement militarisée. Imaginez-vous, la Roya fait 4000 habitants, il y a 500 gendarmes, police, militaires, enfin c'est quand même fou, quoi. Il y a quand même un flic pour 10 personnes, quoi. Donc il y a un moment, se faire contrôler 4 fois par jour, ça commence à être dérangeant. De voir des gens armés dans les montagnes courir après des Noirs, ça commence à être dérangeant. Et d'être noir surtout et français dans la Vella Roya, ben c'est devenu impossible. C'est que ces personnes se font contrôler tout le temps. Donc en fait, la couleur de peau devient une cible. En fait, on devient une cible parce qu'on a une couleur de peau. Ben c'est le problème de la frontière, c'est un endroit où le racisme est devenu légal, en fait, où on se sert de la couleur de peau pour identifier des personnes en migration.
Est-ce que tout ce que vous avez vécu, ça a changé quelque chose pour ces hommes, ces femmes, ces enfants ?
Ah ouais, on arrive à bien gagner quelques batailles. On a gagné quelques batailles, hein, dont l'accès à la demande d'asile dans la Vella Roya, qui avant était impossible. La prise en charge des mineurs isolés, bon, c'est sûr, il faut toujours se battre, quoi. Et je pense que l'opinion publique, quoi, avec ma surmédiatisation, la surmédiatisation de la Vella Roya, on a réussi à sensibiliser des gens qui n'étaient pas sensibles à cette cause. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions et qui sont dérangés par cette situation-là et qui n'ont pas d'avis. C'est vrai que ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, c'est qu'il ne faut pas avoir un avis tranché. C'est qu'on n'est pas forcément d'accord entre même des pros et anti-migrants. Qui est pour la migration? C'est une question stupide. Personne n'est pour la migration. Je veux dire, moi, je ne suis pas pour que des gamins traversent le désert, passent en Libye, traversent la Méditerranée et arrivent ici. Quoi. Je veux dire, moi, il y a un problème. Et ce problème, il n'est pas que français, il est mondial. Mais après, il faudrait pouvoir donner des vraies informations. Et qu'on entend des gens comme Ciotti, comme Colomb, comme Macron utiliser la migration pour faire peur aux gens, pour fédérer autour de la peur. Et la migration, on a l'impression qu'elle sert à ça. C'est que quand le mensonge, quand Colomb est en train de dire oui, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, c'est pas toute la misère du monde qu'on a. Il faut savoir que 97% de la migration africaine, c'est les Africains qui la gèrent. Donc il y a des pays en voie de développement, c'est les pays en voie de développement dans le monde qui gèrent la migration, c'est pas la France, c'est pas l'Europe. Donc il y a un moment, quand on voit un bateau avec 150 personnes, je pense au Diciotti, le bateau italien, ou l'Aquarius, le bateau de SOS Méditerranée, qu'on les bloque en disant « oui, l'Europe, on peut pas trop, qu'il y ait une réunion entre les différents États européens pour 150 personnes ». Je dis « mais s'ils veulent, je prends la maison, les 150 personnes ».
Mais ça, vous voyez que même quand on voit les images, même si on en parle, il y a encore des personnes, beaucoup de personnes qui parlent de ces hommes, de ces femmes, en disant « c'est un danger, on se fait envahir ». On le voit sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui partagent cette parole et il y en a qui partagent.
C'est vrai qu'on les voit beaucoup plus démocratisés sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie. C'est que les gens se permettent sur les réseaux sociaux d'avoir des déclarations racistes, xénophobes et quand même graves. Et beaucoup moins dans l'espace public, en fait. Et les gens oublient, en fait, que le racisme est interdit en France. On a le droit d'être raciste, mais on n'a pas le droit d'avoir des propos racistes. Ça reste interdit. Et qu'on parle d'envahissement, c'est quand même une personne sur mille. Donc, c'est pas non plus un envahissement. Je veux dire, il y a 10 fois moins de personnes qui arrivent en Europe cette année comparée à 2015, par exemple.
Mais il y a des personnes qui pensent que c'est un envahissement, qui viennent voir le documentaire libre.
Ben sûrement, mais ils n'osent pas se poser de questions par la suite. Mais je les invite justement à débattre. Moi, ce que j'aimerais, c'est te demander à ces gens-là, c'est qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont vos solutions? Est-ce que la solution, c'est d'entraver ces bateaux de secours et de noyer ces personnes, laisser mourir ces personnes en mer? Est-ce que c'est... Comment on fait, quoi? Comment on fait? Ces personnes sont là, et je pense pas que les personnes qui sont contre la migration soient contre les migrants. Ils sont contre des conséquences négatives de la gestion de la migration. Donc ils sont contre la délinquance, ils sont contre l'incivisme, ils sont contre tout ça. Et c'est pas, c'est, je pense pas que la violence ou l'incivisme est une nationalité. En fait, c'est des statuts sociaux qui posent problème. Donc stigmatiser une race, stigmatiser une religion et ghettoiser des races et une religion crée forcément des problèmes. Et c'est là-dessus qu'on doit se battre, quoi. Et ensemble, donc, il y a une problématique qui est mondiale, qui est réelle. Donc il faudrait se retrouver autour d'une table, discuter et trouver des solutions et pour que ça se passe bien. Je crois que le but pour tout le monde, c'est que dans 10 ans, dans 15 ans, on se dise tiens, la migration, ben, en fait, c'était un défi qui était important, mais on l'a relevé, on a réussi à ce que on ait des résultats positifs.
Le 6 juillet dernier, le Conseil constitutionnel a censuré le délit de solidarité au nom du principe de fraternité. C'est vous, Cédric Hérault, qui l'aviez saisi avec Pierre-Alain Mannoni, lui aussi investi dans l'aide aux migrants. Qu'est-ce que vous pouvez en attendre?
Ben, il n'y aura plus de possibilité de poursuivre des personnes qui aident des personnes en situation irrégulière quand on les aide sur le territoire français. On peut héberger, on peut transporter. Par contre, le bémol, c'est qu'il reste interdit de faire du passage de frontière. Donc on n'a pas le droit de prendre une personne en situation irrégulière et de l'emmener, de lui faire traverser la frontière, étant donné qu'a priori, je dis bien a priori, c'est interdit. Donc on ne peut pas, nous, avoir le droit de faire passer une personne alors que pour elle, c'est interdit de le faire toute seule. Moi, je n'ai pas envie de me battre pour que moi, j'ai le droit d'aller faire passer des gens. J'ai envie de me battre pour que ces personnes puissent passer librement, parce que je rappelle que l'espace Schengen, bah, c'est l'Europe, et la libre circulation, bah, c'est un droit dans l'espace Schengen. Je rappelle que la fermeture de frontières n'a pas été fermée pour la lutte contre l'immigration, mais contre la lutte contre le terrorisme. Ils n'ont arrêté aucun terroriste sur leur point de frontalier hein, depuis 2015. Et donc du coup, voilà, moi je serai toujours poursuivi parce que j'ai fait du passage de frontières, mais passer au tribunal, ça ne veut pas dire être condamné, ça veut dire se justifier. Donc moi, si demain je dois prendre un gamin parce qu'il en est dans le besoin, il est en danger et je le ramène chez moi, je suis tout à fait d'accord pour aller me justifier devant un tribunal. Il ne faut pas avoir peur de la justice, il faut se dire que la justice c'est un outil pour comprendre et des situations. Et si on a des personnes et non des robots qui sont là à représenter des lois et interpréter des actions qui soient légales ou pas, c'est pour humaniser tout ça.
Cédric Héroux, merci.
Ben, merci à vous.
Cédric Héroux, agriculteur dans la vallée de la Roya, il a aidé des centaines de migrants à traverser la frontière franco-italienne. Il était à Bourg-en-Bresse pour présenter Libre, un documentaire sur son combat pour les migrants.
Radio B.
Radio B.
Les gens ont terminé leur démarche de demande d'asile, donc ils sont déboutés. Et on se demande qu'est-ce qu'on peut bien faire pour eux, parce qu'ils sont toujours sur le qui-vive en se disant est-ce qu'on va venir me chercher, est-ce qu'on va me mettre en résidence dans un CRA, dans un hôtel, et puis me renvoyer chez moi. Donc il y a toujours cette crainte avec eux. Il faut leur donner les conditions de vie où ils puissent un petit peu déstresser, parce que le stress ici est immense et permanent. Et puis nous, au niveau matériel, on est aussi un petit peu inquiet, même très inquiet, par rapport au nombre de poêles à bois qui sont là, vu qu'il n'y a pas d'électricité. Donc problème de poumons, je veux dire, ils respirent quand même un air un peu vicié. Et puis surtout problème de sécurité, et du stockage de bois un peu partout. Et donc, quelque part, on a des craintes au niveau de la sécurité et on essaye de voir ensemble, de construire ensemble quelque chose où les gens puissent être en sécurité, puissent avoir un minimum de confort, entre guillemets, et puissent voir comment envisager l'avenir.
Restez à l'écoute de Radio B. La suite, c'est dans quelques minutes. Néné Chéri sur Radio B avec Kong, une chanson engagée. L'artiste suédoise évoque le sort des migrants en Europe. À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM. Jean Leclerc est membre du collectif Solidarité Migrants. Retraité, il s'occupe de ces personnes qui ont trouvé refuge dans des hangars rue des Prés de Brou à Bourg. Elles y sont depuis octobre 2015. Parmi eux, il y a Dritan Chela, il est albanais. Aujourd'hui, les deux hommes co-président une toute jeune association, les Cabanes Solidaires. Messieurs, bonjour.
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 Jean Leclerc, vous étiez à la projection du documentaire Libre sur le combat de Cédric Héroux. Je le rappelle, cet agriculteur a accueilli chez lui, à la frontière franco-italienne, des centaines de migrants. Vous en retenez quoi ?
que pour être reconnu et puis pouvoir exercer librement son militantisme et pouvoir faire respecter les droits des immigrants, c'est extrêmement difficile et qu'on est tout de suite montré du doigt et qu'on est en butte à beaucoup de problèmes avec l'administration.
Comment est-ce qu'il vit dans la vallée de la Roya fait écho à ce que vous vivez à Bourg-en-Bresse ?
Déjà, le chiffre qu'il a donné de 2500 personnes accueillies dans sa ferme, c'est déjà assez, spectaculaire, mais ça montre aussi que le flux est incessant et continu. Les gens continuent ici à venir chez nous, comme là-bas à la Roya. Et je crois qu'il y a cette possibilité d'accueil, cette volonté d'accueil, de faire respecter l'article 13 où tout le monde est libre de circuler où il veut. Je crois que c'est très très important, très révélateur de ce combat de Cédric.
En quelques mots, quelle est la situation à Bourg-en-Bresse, rue des Prés-de-Broux ?
Rue des Prés-de-Broux, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres immigrants que les Albanais. Nous, on a essentiellement des Albanais et des Kosovars, donc les gens des pays de l'Est. La situation ici est bloquée parce que tous les gens qui sont hébergés aux cabanes, à deux exceptions près, deux personnes près, sont tous des déboutés. Donc des gens qui ont fait tout le parcours de demandeurs d'asile et qui ont été à chaque fois déboutés de leur demande. Donc ils ont pour la plupart reçu une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Et donc ils sont obligés un peu de se cacher ou de pointer ou de faire recours au tribunal administratif. Mais c'est long, c'est difficile. Et puis ils sont très souvent ballottés d'un endroit à l'autre pour déstabiliser encore un peu plus ces personnes.
Ça représente combien de personnes qui vivent rue des Prés-de-Broux aujourd'hui ?
On a 81 personnes. Le tiers de ces personnes sont des femmes, donc les deux tiers sont des hommes. Et on a, parmi ces 81 personnes, 26 mineurs. Mineurs en famille, bien entendu, hein, pas mineurs indépendants, mais mineurs qui sont là avec leur famille. Mais 26 personnes, donc c'est pareil, en gros, un tiers des personnes qui sont là sont des mineurs.
Cédric Hérault, lui, accueille des personnes qui vont déposer une demande d'asile. Vous, ici, vous l'avez dit, ce sont des personnes déboutées. C'est quoi la différence, ensuite, pour s'occuper de ces personnes ?
Quand on est en demande d'asile, normalement, la situation, à un moment ou à un autre, doit se débloquer. Donc, les gens qui sont accueillis en tant que demandeurs d'asile, normalement, sont là de passage et vont aller ailleurs après pour continuer leur demande. Alors que nous, ce sont des déboutés. Donc ils n'ont plus aucune solution. L'État, par l'intermédiaire de son opérateur, donc ici par l'intermédiaire d'Alpha 3A, ne leur proposera plus aucune solution. Donc ils sont chez nous un peu à titre définitif. Et il y en a, par exemple, il y a un couple qui va passer ici son quatrième hiver dans les cabanes.
Dritan Cela, vous êtes albanais. En quelques mots, pourquoi êtes-vous venu en France ?
J'ai venu en France pour des raisons personnelles. C'est la première chose que je peux dire.
Et comment vous vous êtes retrouvé à Bourg-en-Bresse ?
J'ai entendu que Bourg-en-Bresse est plus accueillant, comme un territoire plus accueillant. Mais je ne crois pas maintenant, je ne crois pas que c'est vrai. Parce que moi, quand j'ai venu ici, j'étais à la rue. J'étais à la rue sans hébergement et sans aide. Oui.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vos conditions de vie ici, rue des Prés-de-Broux ?
Ils sont très difficiles parce qu'il y a beaucoup de gens concentrés à une place très très étroite. Il n'y a pas de l'eau chaude. Il n'y a pas d'électricité et il y a beaucoup de problèmes ici.
Jean Leclerc, vous n'imaginiez pas que ça prendrait une telle proportion ?
C'est d'abord les gens eux-mêmes qui ont pris le squat d'assaut et puis après on les a aidés à s'installer, trouver des matériaux, etc., nettoyer, mettre en état. Mais effectivement, on ne pouvait pas penser que ça durerait aussi longtemps. On savait qu'on avait une chance. Parce que le propriétaire des lieux étant Emmaüs, on savait bien qu'Emmaüs n'allait pas demander au préfet de faire évacuer le lieu. Malgré que c'est peut-être sa volonté profonde, mais on sait qu'on est tranquille avec Emmaüs. Donc du coup ça s'est installé, ça s'est pérennisé, on a trouvé les moyens de pouvoir vivre à peu près correctement. Et c'est vrai que, bon, aujourd'hui, on est en train de voir si on ne peut pas passer dans une deuxième étape qui serait une étape d'aménagement, d'amélioration de l'habitat, notamment un bloc sanitaire, une douche, etc., des choses qui permettent d'améliorer un peu les conditions et puis voir aussi, pourquoi pas, vu que le nombre d'enfants qu'on a, il y a beaucoup d'enfants scolarisés, avoir un endroit qui soit un peu une pièce commune où les enfants puissent jouer, puissent faire leurs devoirs, etc., et où il y ait l'électricité. Parce que pour le moment, bon, on fait comme on peut avec des panneaux solaires, mais il n'y a pas d'électricité partout.
Quand ils viennent, ils font une demande d'asile, et la période pendant laquelle ils attendent une réponse, ou même s'ils ont une réponse négative et qu'ils font un recours, l'État doit les loger. Oui. Est-ce que vous vous attendiez à une réaction de l'État ?
Alors, on a eu des réactions que moi je qualifierais de sporadiques, parce que donc, l'hiver dernier, il y a une salle qui a ouvert au 40 rue des Prés-de-Broux, donc tout près de nous, pour héberger des personnes. Les gens qui allaient au 40 rue des Prés-de-Broux ou qui n'y allaient pas avaient eu la promesse du préfet d'être logés d'une façon pérenne à la fin de l'hiver. Rien n'a bougé, personne n'a été logé. Plus récemment, le directeur de la cohésion sociale nous avait fait part d'une possibilité d'avoir une trentaine de places aussi d'hébergement. Ça fait 2-3 mois qui se sont passés depuis et on n'a toujours rien vu venir, soi-disant qu'une solution plus globale serait à l'étude, mais en attendant, les gens sont toujours dans le froid, dans la précarité et dans des conditions de vie absolument déplorables.
Et ils s'apprêtent, ces personnes, à passer leur quatrième hiver sur place.
Oui.
Au sujet des migrants qui arrivent toujours chez lui, Cédric Héroux pose toujours la même question. Qu'est-ce qu'on fait ? Jean Leclerc, est-ce que c'est la même chose pour vous ?
Mais absolument, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que, bon, là, on est quand même, nous, je dirais, sur une voie de garage. C'est-à-dire que les gens ont terminé leur démarche de demande d'asile, donc ils sont déboutés. Et on se demande, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour eux ? Parce qu'ils sont toujours sur le qui-vive en se disant, est-ce qu'on va venir me chercher ? Est-ce qu'on va me mettre en résidence, dans un CRA, dans un hôtel, et puis me renvoyer chez moi. Donc il y a toujours cette crainte avec eux. Il faut leur donner les conditions de vie où ils puissent un petit peu déstresser, parce que le stress ici est immense et permanent. Et puis nous, au niveau matériel, on est aussi un petit peu inquiet, même très inquiet, par rapport au nombre de poêles à bois qui sont là, vu qu'il n'y a pas d'électricité. Donc problème de poumons, je veux dire, ils respirent quand même un air un peu vicié, et puis surtout problème de sécurité, et du stockage de bois un peu partout. Et donc quelque part, on a des craintes au niveau de la sécurité, et on essaye de voir ensemble, de construire ensemble quelque chose où les gens puissent être en sécurité, puissent avoir un minimum de confort, entre guillemets, et puissent voir comment envisager l'avenir.
Qu'est-ce qui a motivé la création de l'association Les Cabanes Solidaires ?
Alors la création est arrivée suite à différents concours de circonstances. Le premier, c'est que les gens des cabanes ont eux-mêmes, et surtout les dames, pris conscience qu'elles avaient un rôle, qu'elles avaient une importance, une responsabilité. Et notamment quand elles ont refusé d'aller au 40 rue des Prés-de-Broux en disant « Mais pourquoi vous ne mettez pas tout de suite dans un logement pérenne plutôt que de nous faire attendre le temps d'hiver dans un logement transitoire ?» Donc déjà, elles étaient contentes. Elles avaient pu dire non, elles avaient pu s'exprimer. Et donc il y a eu une amorce de responsabilisation que on a mis en exergue et qu'on a monté. Et donc, l'association a pu se créer parce que les gens des cabanes réagissaient. On voulait à tout prix que ce soit quelque chose de bipartite, pas quelque chose qui soit imposé par le collectif. Le collectif, lui, souhaitait pouvoir rejouer son rôle politique. C'est-à-dire que là, on était un peu englués, on avait les pieds dans la boue. Donc, si on veut gérer, il faut quelqu'un qui gère, mais il faut aussi quelqu'un qui puisse prendre du recul et puis faire une action politique, interpeller les pouvoirs publics, la mairie, la préfecture, etc. Donc, le collectif peut reprendre sa place et l'association peut faire, elle, la gestion plus directe des cabanes solidaires, comme son nom l'indique.
Dridan Chela, ça représente quoi pour vous d'être le coprésident de cette association, les Cabanes Solidaires ?
Ça présente quelque chose pour moi, parce que je représente toutes les Albanais. Et moi, je sais très bien les problématiques qu'ils ont.
Donc l'association est co-présidée par vous-même, Jean Leclerc, et vous, Dritan Tchella. Comment seront prises les décisions?
On a créé quelques commissions pour gérer les situations ici, pour le nettoyage, par exemple, pour les bois, et on fait toutes les semaines réunion pour gérer les situations.
Donc vous allez faire le lien en fait entre les habitants et donc après vous, Jean Leclerc, et les autres membres du collectif.
On parle souvent de démocratie participative ici, donc on a un conseil d'administration qui a été élu avec donc deux coprésidents, secrétaire adjoint et puis des membres. Mais toutes les semaines, quand on fait une réunion du conseil d'administration, en fait on se retrouve à 25 ou 30, puisque tous les habitants qui sont là viennent s'agglutine autour des gens qui sont en réunion, et en fait la réunion est une démocratie directe. Les gens, aussi bien les décisions qu'on a prises par rapport à évacuer les voitures, par rapport au nettoyage, par rapport au bois et tout, toutes ces décisions ont été prises, non pas avec 5 ou 6 membres du conseil d'administration, mais avec 20 ou 30 personnes qui étaient autour et qui venaient apporter leur concours. Voilà.
Jean Leclerc, vous avez créé cette association pour, entre autres, avoir plus de temps pour les actions politiques du collectif Solidarité Migrants. Qu'est-ce que vous prévoyez?
Normalement, on a une manifestation devant la préfecture et marche vers le marché, vers le marché couvert. Donc, le 6 octobre. Le 6 octobre en matinée. Oui, en matinée. Et donc, on va essayer de solliciter une audience auprès du préfet pour voir si il accepte de recevoir l'association naissante. Et puis, deux, s'il veut bien donner voix au collectif et écouter un peu ses revendications par rapport au respect de l'article 13, par rapport au respect du droit d'hébergement et de la dignité des demandeurs d'asile qui sont sur notre territoire.
Jean Leclerc et Dritan Tchella, les coprésidents de l'association Les Cabanes Solidaires.
Radio B.
Quelques infos en bref. Le 29 septembre 1988, inauguration de la médiathèque Elisabeth et Roger Vaillant à Bourg. Pour ces 30 ans, plusieurs événements sont organisés. Un petit déj littéraire, 30 ans, ça se fête, pour tester vos connaissances sur les lauréats des prix littéraires des années 80. C'est le samedi 13 octobre. La médiathèque propose aussi une exposition autour de son année de naissance. C'est à voir pendant le mois d'octobre. À noter, Radio B récolte les témoignages des enfants burgiens. C'est à écouter ce samedi 29 septembre à la médiathèque. Retrouvez tous les rendez-vous sur bourg-en-bresse.fr. Le mois d'octobre, c'est aussi celui de la fête de la science. Les idées reçues, c'est le thème de l'édition 2018. Dans l'Ain, c'est du 29 septembre au 20 octobre. Une vingtaine de communes du département accueillent des animations. La coordinatrice départementale de l'événement était dans nos studios. Les nouveautés et ses coups de cœur, c'est lundi prochain dans votre magazine d'infos. D'ici là, explorez le programme sur fêtedelascience.fr. Manger bio et local, c'est l'idéal. Cette campagne se poursuit jusqu'à dimanche, le 30 septembre. Agriculteurs, agricultrices, artisans, artisanes ou encore magasins bio vous attendent pour expliquer leur métier et leur engagement. Pour préparer vos visites, deux sites internet, bioetlocal.org ou auvergne-rhône-alpes.bio. À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Retrouvez À vous les Burgiens tous les lundis à 17h15, rediffusion mercredi à 13h, samedi et dimanche à 8h et à tout moment sur notre site radio-b.fr.